Alors, il faut dire, Bernard Fournier, que lorsque on prend comme ça des passages de quatuors de Beethoven, on a le sentiment que vous livrez un exercice quasiment funambulesque et presque impossible. C'est parce que d'essayer de montrer comment est-ce qu'un génie est génial. Parce que c'est vrai que lorsqu'on entend ça, c'est absolument extraordinaire. Et à la fois, c'est ce qui fait toute l'ardeur, toute la passion d'un livre comme le vôtre. Parce que dans votre livre, des petits exemples comme vous donnez ici, il y en a des milliers. Et d'ailleurs, évidemment, on a le très grand privilège ici d'avoir le quatuor Isaïe qui les joue. On aimerait, avec votre livre, vous n'auriez pas pu mettre avec un petit CD où on aurait pu avoir exemple 25, exemple 26, pour qu'on puisse finalement entendre. Parce à chaque fois, vous prenez, évidemment, là, vous avez pris 5 malheureux exemples. Il y a des centaines et des centaines dans votre livre, dans les différents chapitres, pour expliquer effectivement les différents éléments d'approche, disons, du quatuor à cordes classique. Mais évidemment, on ne les entend pas forcément. Si on ne sait pas lire très bien une partition, tout ça, quoi, il aurait.
Eh bien, écoutez, justement,
qu'on ait une bonne discothèque.
Non, mais parce que j'ai été peut-être un petit peu utopique, mais pour chaque exemple que j'ai donné, j'ai cité des références de minutage extrêmement précis à des références discographiques que j'ai définies au début du livre. Donc ici, par exemple, vous verrez la référence au quatuor Weg entre 2 minutes 21 et 3 minutes 57. Bon, je dis n'importe quoi, mais c'est pas les chiffres exacts, mais c'est à peu près ça. Donc le lecteur qui veut véritablement lire le livre en essayant véritablement de voir de quoi je parle, n'a pas besoin d'avoir une partition. Il a seulement effectivement d'avoir besoin de se procurer le CD correspondant. Malheureusement, il n'existait pas de CD du quatuor Isaïe. Et je le regrette vraiment beaucoup maintenant que je les ai entendus dans ces quatuors de Beethoven. Bon,
quand même.
Bon,
dire qu'ils n'ont donné que récemment l'intégrale des quatuors de Beethoven. C'était à Besançon.
On attendra leur intégrale avec beaucoup de.
Alors
beaucoup
encore
de joie.
Un ou deux petits exemples, vous avez encore 10 minutes.
Oui, j'espère bien parce que je voudrais montrer. D'abord, je voudrais sortir de cette. Là, maintenant, on était dans la haute spiritualité beethovenienne, mais la vie spirituelle, ce n'est pas seulement les grandes méditations intérieures ou les méditations stellaires. C'est aussi le jeu. Schiller disait « L'homme n'est jamais aussi humain que lorsqu'il rit ». Et dans le même huitième quatuor, je vais vous donner un petit exemple tout à fait étonnant où Beethoven joue avec un motif de 3 notes qui est constitué par la tête du thème du refrain du final de son quatuor, qu'on va peut-être écouter tout de suite, jouer quelques mesures du thème, extrêmement enjoué. Voilà, eh bien, les 3 premières notes de ce thème vont servir d'argument à un petit épisode de transition qui ramènera d'ailleurs le fameux thème. Et cet épisode est absolument sans aucun équivalent, sans précédent en musique. Sans précédent, pas tout à fait, parce que vous verrez tout à l'heure en écoutant l'opus 76, numéro 4, que jouera le quatuor Isaïe, que dans le final, un des plus beaux finales de Haydn d'ailleurs, il y a un petit passage comme ça où il y a des échanges assez brefs entre les voix et assez difficile aussi. Mais chez Haydn, c'est prévisible, c'est-à-dire que c'est le deuxième violon après le premier, l'alto après le deuxième, etc. Là, ce que vous allez voir, c'est complètement aléatoire. C'est comme si Beethoven était fou. Ça se passe de tous les côtés, on ne comprend rien, on ne sait absolument rien de ce qui se passe. Et une chose très intéressante à remarquer notamment, je ne sais pas si vous avez le temps de remarquer, parce que ça se passe très 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 vite. Les 3 premières occurrences, c'est exactement les 3 mêmes notes qui sont entre le premier et le second violon dans le même registre. Donc c'est intéressant parce que justement c'est la différenciation des 2 instruments qui sont en fait le même. Et puis par la suite, ça se brouille complètement. Et dans tout cet exemple, vous entendez 3 notes à 3 hauteurs différentes, mais 3 notes et 3 notes seulement. C'est vraiment quelque chose d'absolument stupéfiant. Et là, dans ce passage, il n'y a rien d'autre que ce jeu avec 4 notes et rien d'autre que le dialogue minimal des 4 voix. Dans aucun autre genre instrumental, on ne pourrait faire ça que dans ce genre homogène qu'est le quatuor. Alors maintenant, on va quitter le fusionnel pour un instant, mais on va voir, et c'est un exemple extrêmement intéressant pris dans la variation du sixième quatuor, la sixième variation, pardon, de l'opus 131, 14e quatuor de Beethoven. Pour comprendre ce qu'il se passe, on va écouter d'abord le thème sublime de ce mouvement. On va écouter la première section du thème. ce thème est évidemment magnifique, vous aurez remarqué que le thème est dialogué entre les deux violons. Et ce qui est absolument remarquable là-dedans, c'est que un compositeur moins génial que Beethoven aurait donné ce thème au seul premier violon. Et ici, c'est sans arrêt un échange de quatre notes entre le premier et le second. Dans la première section, le thème est dans quatre sections. Dans la première section que l'on vient d'entendre, c'est malgré tout le premier violon qui mène, mais dans la deuxième, ce sera le second qui mènera la danse. La danse, ce n'est pas une danse, c'est un dialogue amoureux. La sixième variation à laquelle nous allons nous intéresser maintenant est construite sur un dérivé de ce thème de quatre notes. Et on va écouter, en fait, il ne s'agit pas de variation sur un thème, mais de variation sur une cellule. Et Guillaume Sutre va jouer maintenant, rejouer les quatre cellules du thème qu'on écoute. Et la manière dont elles sont transformées au début de la sixième variation, avec suppression d'une note et répétition de quelques autres. Voilà. Alors, c'est ce matériau qui va servir à engendrer la sixième variation. Cette sixième variation, c'est une sorte de psalmodie, comme si on se trouvait dans un monastère bénédictin. Les quatre voix psalmodient ensemble un chant très, très lent et très doux et très profond. Quatre sections dans cette variation, comme dans le thème. La première section, les quatre instruments psalmodient. Deuxième section, une perturbation insensible va apparaître au violoncelle. Elle est presque indistincte, on n'entend presque rien. Et puis, malgré tout, on se dit, il se passe quelque chose, on devine. Troisième section, cette perturbation devient une sorte de coup de tonnerre. Le violoncelle explose.
C'est le diable dans le bénitier.
C'est exactement le diable dans le bénitier. C'est tout à fait ça. D'ailleurs, votre intervention...
Ça nous fait beaucoup rire. Hein.
Oui, mais ils ont raison. Et c'est parce que, si vous voulez, moi, ça me faisait penser à Kafka. Ça me fait penser à cette scène, à ce texte de 1917 de Kafka qui s'appelle Le Pont. Alors, Le Pont est là, et puis il sent que quelqu'un arrive qui lui fait peur. Il se demande qui c'est, qui est-ce, est-ce un ennemi, est-ce un étranger, est-ce un enfant. Donc, il y a quelque chose d'étranger qui arrive et il ne sait pas ce que c'est. Or, c'est exactement ce qui se produit là. Avec le violoncelle, quelque chose d'étranger arrive, d'inquiétant, on ne sait pas ce que c'est. Et bon, la perturbation, ça fait peur. La perturbation est reprise une deuxième fois, mais la psalmodie continue. Troisième section, la perturbation reprend encore, donne un nouveau coup de tonnerre, mais cette fois, elle contamine, elle se répercute au premier violon qui va répondre avec angoisse. Mais la psalmodie continue toujours imperturbable, quoique effrayée. C'est-à-dire qu'au lieu d'être piano, elle recule dans la nuance pianissimo.
Va des rétro, Satanas.
voilà, c'est ça. Et arrive ensuite...
Et alors,
voilà, c'est dernier acte, il n'y a que quatre actes, mais pas cinq.
Oui. Tout ça dure 1 minute 20, évidemment.
Oui, à peu près. Près.
C'est vraiment du micro.
Quatrième acte, donc quatrième intervention, la psalmodie va être perturbée l'espace de quelques secondes, c'est-à-dire qu'elle-même va prendre la nuance forte, et puis à partir de là, la perturbation va être peu à peu assimilée par la psalmodie. Et c'est ça qui est superbe, qui est très beau, et c'est là encore le sens spirituel de cette page. Non seulement c'est une gestion de la perturbation et de l'événement, mais c'est l'assimilation par un groupe social, le quatuor, de quelqu'un d'étranger, en l'occurrence ce violoncelliste perturbateur qui est venu là et qui finalement va rejoindre les autres en ayant fait accepter son altérité, c'est-à-dire cette perturbation. apporté ici cet exemple.
Non, mais c'était un exemple, d'ailleurs c'est un passage vraiment extrêmement célèbre. Mais finalement, c'est la manière dont Peter Brook voit Don Giovanni, quoi. Comment la collectivité digère l'individu un petit peu, qui est un petit peu étrange. Alors je pense maintenant, il faut que vous alliez, je ne sais pas, est-ce que vous avez, je demande maintenant aux membres du Quatuor Isaïe, parce qu'on est un petit peu en retard, est-ce que vous pensez qu'on peut faire le concert, vous avez le courage de commencer le concert?